Mon copain imaginaire, il avait l'art des cabrioles. Je le revois les pieds en l'air sur les murs jaunis de l'école. Bah oui, je sais, on n'y peut rien. Les souvenirs aussi jaunissent. Et comme le disait mon copain, faudrait que jamais rien grandisse. Lui et moi, c'était une enfance. Il me suivait un peu partout. Je lui faisais mes confidences et lui faisais les 400 coups. Alors j'en prenais plein les yeux. Moi qui étais enfant trop sage, intrépide, il osait pour deux. Là où je manquais de courage, moi, mon copain de la caboche, c'était le meilleur à la récré. Inattrapable à chat perché, mais bon, pour lui, c'était fastoche. Quand je l'appelais à la rescousse, cador aux billes et star du foot, ensemble on pointait ma frimousse, ça nous mettait du baume au shoot. Puis c'est idiot, mais peu à peu, on oublie le foot et les billes. On se prépare à d'autres jeux, gagner sa vie, perdre des filles. Et lui aussi, je l'ai perdu, plus de copains dans les parages. Petit à petit disparu, il paraît que j'avais plus l'âge. J'ai fait avec, j'ai vécu sans, avec moi-même et sans chercher à lui trouver un remplaçant. Mais le destin s'en est chargé. C'est sûr, parfois la vie est sotte. Enfin, c'est vrai, elle comprend rien. Pour me rembourser d'un copain, voilà qu'elle m'a piqué deux potes. À chaque adieu, son véhicule, et l'amitié s'en va trop tôt. Califourchon sur sa moto, ou à cheval sur un globule. L'imaginaire à ses jardins, la mort, il sait me dépenser. Et moi, depuis mes deux copains, je peux que les imaginer. C'est con, je sais, les souvenirs, et ça vient là tout chambouler. Celui qui te faisait sourire, l'instant d'après te fait chialer. C'est de l'eau de chagrin qu'on verse, c'est des regrets, puis c'est l'inverse. Les clins d'œil que j'envoie ont l'air vers mes copains imaginaires.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons un patchwork de diverses choses. Pour commencer... ce témoignage reçu ici par l'intermédiaire du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, qui est celui euh, d'une personne qui écrit à son psychiatre, au psychiatre de son père, plus exactement. Voilà. Alors, voilà, c'est, elle écrit à le psychiatre de son père, et elle s'appelle Monique Jeannot-Courcy. Voilà, excusez-moi pour le temps long, mais c'est le démarrage, voilà. Alors, son psychiatre qui est Monsieur Etchegaray, enfin le psychiatre de son père à Cadillac sur Garonne durant les années 70, psychiatre au CHS de Cadillac sur Garonne. Monsieur Etchegaray, vous ne vous souvenez sans doute pas de moi. Nous nous sommes rencontrés au début des années 70 quand vous dirigiez un service dans le centre hospitalier de Cadillac. Je m'appelle Monique Jeannot-Courcy, je suis la fille d'Antoine Jeannot, qui était interné dans votre service. C'est là que j'ai rencontré mon père pour la première fois. Pour la première fois de ma vie et de la sienne. J'avais 23 ans. Il a été interné chez vous de 1953 à l'âge de 29 ans jusqu'en 1987. À l'âge de 63 ans. Toute une vie, donc. À l'époque, je vous ai beaucoup sollicité, car je voulais connaître les raisons d'un tel internement, ce à quoi vous me répondiez qu'il avait un délire autour de son origine. Certes, enfant de la DAS, à qui cette instance refusait, malgré ses demandes récurrentes, de livrer la moindre information, cette question était devenue vitale pour lui. Qu'avez-vous fait pour l'aider ? Lorsque j'ai moi-même entamé des démarches dans ce sens, je vous ai proposé d'appuyer ma demande auprès de la DAS, ce que vous avez refusé en me précisant que si la DAS nous avait dit qu'il n'y avait rien dans son dossier, nous ne saurions jamais rien. À ce propos, j'ai le bonheur de vous informer que malgré votre refus, je suis arrivé à mes fins en 1986. Surtout, cet argument justifie-t-il un internement à vie ? D'autant plus que vous me précisiez aussi que si je voulais que mon père sorte, vous signiez sa sortie et il sortirait le lendemain. Il était donc capable d'autonomie et de mener du jour au lendemain une vie normale entre guillemets, hors de vos murs. Mais comment faire au bout d'une vingtaine d'années d'internement ? Pourquoi alors ne pas s'en être préoccupé plus tôt ? N'était-ce pas votre rôle de médecin ? Et quelles aides proposiez-vous pour l'organisation de sa vie future après une telle coupure avec le monde extérieur ? Votre seule solution, entre guillemets, a consisté en un traitement massif de neuroleptiques qu'il a dû subir sans discussion possible et qui le maintenait dans un état d'apathie totale. Ce traitement à de telles doses était-il vraiment nécessaire ? À vos yeux, la question ne se posait même pas. Or, lorsqu'il a eu 62 ans, j'ai pu organiser son transfert dans une maison de retraite. Le directeur de cet établissement a accepté de réduire ses neuroleptiques au maximum. Aucun désagrément ne s'en est suivi, bien au contraire. Le résultat a été un grand changement de vie pour mon père. Cela lui a permis d'être plus présent dans sa vie, de s'investir dans des activités et donc d'avoir une vie à peu près normale. Vous avez usé et abusé de votre pouvoir en toute inconscience, en vous défaussant de vos responsabilités. Pourquoi je vous ai écrit cette lettre ? À l'heure qu'il est, vous êtes certainement un vieil homme dans la dernière ligne droite de sa vie, tout comme je suis moi-même une vieille femme. Cette histoire n'a pas cessé de me hanter et de me désespérer, même après que mon père ait disparu. Je voudrais surtout que vous réalisiez l'impact de vos décisions lorsque vous étiez en activité. Dans le cas présent, vous avez complètement détruit une vie, et peut-être aussi d'autres. Par votre incurie, votre désinvolture, votre mépris pour ces personnes dont la vie entière dépendait de vos décisions. Voilà, c'était donc la lettre de Monique Jeannot-Courcy qui date du 28-10-2024, 28 octobre. Alors, quelque chose d'autre. On va passer à notre rubrique l'entonnoir d'or. On va décerner un trophée. Hein. C'est pas la première fois dans l'entonnoir. Cette fois-ci, nous décernons. Alors, l'entonnoir d'or, qu'est-ce que c'est ? L'entonnoir d'or récompense un acteur de la vie publique ou quelqu'un de plus ou moins connu utilisant des termes psychiatriques afin de. Pour définir quelque chose qui ne l'est pas, qui n'a pas lieu d'être psychiatrisé. Peut-être pathologiser un fait pour mieux le dépolitiser, enfin voilà, un fait ou une situation. Et là, il s'agit donc c'est tiré d'un article d'Archimède intitulé « Face à la censure, l'éditocratie en roue libre », article de Pauline Perrenot du 6 décembre 2024. Alors Archimède, c'est le collectif Action Critique Média qui produit sa revue, enfin son périodique. Ici, le contexte, c'est ça fait suite à la censure des parlementaires provoquant. La motion de censure provoquant la démission du Premier ministre Barnier. Et alors, dans la République des Pyrénées, un certain, alors il est connu du milieu des journalistes, hein, Jean-Marcel Bouguereau, condamne une, je cite, « alliance de la gauche et de l'extrême droite sur les décombres du Front républicain ». Deux points, un spectacle qui fait ressembler notre Parlement à la nef des fous. Voilà, c'était une déclaration du 4 décembre. Alors, qui c'est Jean-Marcel Bouguereau ? C'est un journaliste, comme je le disais, 68 art très actif. Il est cofondateur du journal de mai 68 Action. De 1974 à 1987, il est journaliste à Libération. Il couvre le terrorisme allemand et italien dans les années 70. Au début des années 80, il est l'envoyé spécial de Libération en Pologne, où il rencontre de l'épopée de Solidarnosc. Il devient le rédacteur en chef de Libération à la reparution de 1981, où il représente régulièrement le journal à l'émission de Michel Pollack, Droit de réponse. De 1987 à 1992, il rejoint l'événement du jeudi comme directeur de la rédaction, puis devient correspondant en France du Nouveau Quotidien suisse, rédacteur en chef du Nouvel Observateur entre 1997 et 2011. Il est éditorialiste à la République des Pyrénées depuis 1991. Alors, ce résumé biographique de Jean-Marcel Bouguereau a été trouvé dans Marianne, sur le site marianne.net. Donc, le Parlement, la nef des fous, alors bravo pour cette citation, et nous décernons donc l'entonnoir d'or à ce personnage. Voilà. Continuer, je pensais à vous lire aussi une sorte de manifeste qui a été édité, je crois, sur je n'ai plus la référence, mais je crois que c'est sur Comme des Fous, hein, sur le site Comme des Fous. Alors, avec ce terme de santé mentale, hein, qui nous fait, qui, sur lequel on devrait vraiment faire une une discussion autour de ce concept de santé mentale qui est vraiment pour certains, certaines, quelque chose de bienvenu. Enfin, on parle de pensée, de santé mentale, il était temps, etc. Et pour d'autres, c'est quand même une sorte de généralisation d'un voile médical posé un peu sur toutes les choses, quoi. Voilà. Alors, c'est une espèce de manifeste de groupe de personnes psychiatrisées et alliées. Donc voilà, elle se détermine comme ça. Santé mentale, faire nôtre la grande cause nationale 2025. Alors, nous, personnes psychiatrisées et alliées, avons décidé de faire entendre notre voix en cette année 2025 où le label Grande Cause Nationale est consacré à la santé mentale. Folle et fière. Et fière, fière. Tout d'abord, rendons la folie aux folles. Aux folles, F-O-L-S. Oui, maintenant on dit ça, on dit comme ça, on n'est plus les fous, mais pour à la fois masculiniser et féminiser le mot, on le met en F-O-L-S. Rendons la folie aux folles. Nous utilisons ce terme folle, ils le disent d'ailleurs, comme terme neutre pour désigner les personnes concernées par la folie et la neurodiversité. Il s'agit de retourner le stigmate dans un effort d'auto-déstigmatisation. Nous ne nous identifions pas aux étiquettes diagnostiques que nous colle la psychiatrie, mais nous nous identifions par nos singularités. Faire respecter la convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous appelons les responsables politiques à ce que soit ajoutée au bloc de constitutionnalité la convention relative aux droits des personnes handicapées, CDPH, établie par l'Organisation des Nations Unies et ratifiée par la France. S'engager à l'appliquer dans les faits, c'est faire respecter les droits fondamentaux des personnes vivant avec un trouble psychique et en situation de handicap, car les deux sont liés. Nous nous associons au terme « handi » qui nous rassemble au-delà des étiquettes diagnostiques que l'on peut aussi s'approprier sans devoir essentialiser nos existences avec des termes stigmatisés. Malades mentaux, dépressifs, bipolaires, schizophrènes, autistes, TDAH, etc. » Les droits des personnes sont bafoués dans l'indifférence générale, ce qui renforce la structure inégalitaire de la société et opprime le monde psychiatrique malgré les lois instaurant depuis plus de 20 ans la démocratie sanitaire. Alors là, je fais une petite intervention. D'accord, le fait que le monde psychiatrique soit opprimé n'est pas vraiment un gros souci pour qui se bat pour le retour des droits aux personnes psychiatrisées qui sont effectivement les véritables opprimés du monde psychiatrique. Je poursuis. Rien sur nous sans nous. Au-delà de la reconnaissance des droits, c'est l'inclusion sociale qui devient inaccessible. Des centaines de milliers de personnes suivies par la psychiatrie ont connu la rue et 75% d'entre elles sont sans emploi. Alors, reparenthèse, là, effectivement, on est dans le contexte habituel où l'inclusion sociale signifie avoir un emploi. Bon, ça pourrait aussi être d'autres choses, mais je ferme ma parenthèse. Je poursuis donc ce manifeste des personnes psychiatrisées et alliées, représentant, censées représenter ces personnes. La fin des soins sans consentement. Nous revendiquons l'abandon d'une culture de la contrainte, la mise en place de lieux d'apaisement de crise, lieux de répit autogérés ou comprenant des équipes formées à la relation, à l'empathie, au lien thérapeutique, sans contention physique, ni chimique, ni psychologique. Voilà, alors là, il y a en italique « Manifeste de la Fada Pride 2016 ». Donc, 2016, voilà, bah c'est ça, oui, c'est-à-dire que cette revendication-là faisait partie des revendications de la Fada Pride de 2016. Fada Pride, donc, qui était bien plus, bien moins dépolitisée que la Mad Pride française de la même époque. Qui n'était pas encore très virulente, on peut dire, au niveau de la défense des droits et des revendications. Peut-être que donc ici, je continue mon commentaire. Ce texte, d'ailleurs, annonce l'organisation d'une éventuelle nouvelle Mad Pride en 2025 et avec donc des collectifs qui seront peut-être plus politisés que ceux qui ont constitué ces Mad Pride molles des années 2010. Fin de ma parenthèse, je poursuis. Nous demandons l'abrogation de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement, qui est incompatible avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui affirme que le consentement est la base du soin sans exception. La loi de 2011 n'est pas une loi de soins, c'est une loi d'enfermement. On ne peut pas soigner quelqu'un d'enfermé, car la personne n'est pas libre et la liberté est nécessaire au consentement. L'isolement et la contention des pratiques à abolir. La communauté psychiatrique est unanime sur le fait qu'on ne peut plus continuer à attacher les personnes agitées à un lit pour les immobiliser pendant un temps réglementé dans une chambre fermée à double tour. Cette pratique relève de la torture selon les traités internationaux et nos témoignages. Les recommandations de bonnes pratiques de la haute autorité de santé, listées ci-dessous, ne sont jamais respectées. Alors voici les recommandations de bonnes pratiques de la haute autorité de santé. Il est indispensable au moment de la mise en place de la mesure d'isolement de donner aux patients des explications claires concernant les raisons de l'isolement et les critères permettant sa levée. L'explication doit être donnée dans des termes compréhensibles par le patient et répétée si nécessaire pour faciliter la compréhension. Il est nécessaire d'expliquer au patient ce qui va se passer durant la période d'isolement, surveillance, examens médicaux, traitements, toilettes, repas, boissons. Dans la recherche d'une alliance thérapeutique avec le patient, il est demandé au patient s'il souhaite prévenir sa personne de confiance ou un proche. Dans ce cas, les moyens les mieux adaptés à la délivrance de cette information doivent être recherchés. Après la sortie d'isolement, il est proposé au patient de reprendre l'épisode avec les membres de l'équipe. Cela donne lieu à une analyse clinique tracée dans le dossier du patient. Après la levée de la contention mécanique, il est proposé au patient de reprendre l'épisode avec les membres de l'équipe. Cela donne lieu à une analyse critique tracée dans le dossier du patient. Alors, c'était les recommandations donc, de bonnes pratiques de la haute autorité de santé qui ne sont jamais respectées. Lutter contre les violences psychiatriques. Le traitement forcé et d'autres pratiques préjudiciables telles que la mise à l'isolement, la stérilisation forcée, l'utilisation de moyens de contention, la médication forcée, la surmédication, y compris toute médication administrée sous des prétextes fallacieux et sans informer des risques, constitue non seulement une violation du droit au consentement libre et éclairé, mais aussi une forme de mauvais traitement, voire de torture. Par conséquent, le Comité des droits des personnes handicapées affirme la nécessité de mettre fin à tous les traitements non consentis et d'adopter des mesures visant à ce que les services de santé, y compris les services de santé mentale, appliquent le principe du consentement libre et éclairé de la personne concernée. Il affirme également la nécessité de mettre fin à la mise à l'isolement et à l'utilisation de moyens de contention, aussi bien physiques que pharmacologiques. Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 2018. L'expérience de l'hospitalisation en psychiatrie est traumatisante pour une grande partie, si ce n'est tous les patients hospitalisés avec ou sans leur consentement. Avec l'impossibilité de faire valoir nos droits quand nos facultés psychiques sont altérées par les médicaments et la sidération. Le contrôle de chaque hospitalisation par le juge des libertés dans les 12 jours qui suivent le début de l'hospitalisation est le plus souvent une formalité pour prolonger le séjour à l'hôpital. Personne ne sort à moins d'avoir un avocat qui trouve un vice de procédure. Pas de rétablissement sans justice sociale. Le rétablissement est un processus individuel et collectif de sortie de la maladie de personnes expérimentant des troubles psychiatriques sévères. Il s'oppose à l'idée courante d'incurabilité de la psychose. Il intègre le fait que les personnes atteintes de troubles psychiatriques doivent à la fois se rétablir des symptômes de la maladie, mais aussi des conséquences sociales négatives liées aux représentations de la psychose. AK. Rétabli ou en voie de rétablissement, de rémission ou de guérison, nous pouvons être sceptiques quant à la récupération du concept de recovery par le système de santé qui prône l'individualité par-dessus l'intérêt commun de justice sociale et entre parenthèses et climatique. Petit aparté, l'éco-anxiété partagée collectivement n'est pas un trouble psychiatrique. L'action de la police dans la santé. Mais que fait la police ? Comment en est-on arrivé à la psychiatrie sécuritaire où les services ouverts, entre guillemets, où la liberté d'aller et venir dans le parc de l'hôpital se font de plus en plus rares ? Ouvrir les portes des services fermés et des chambres d'isolement serait une étape de transition réaliste afin d'atteindre l'objectif du zéro isolement et zéro contention. Et n'oublions pas que ces pratiques thérapeutiques, voire sécuritaires, naissent de l'enfermement, de la privation de liberté d'aller et venir. Nous dénonçons fermement le dispositif policier OpsiWeb qui vise à croiser les dossiers des personnes enfermées sans leur consentement avec les personnes fichées S ou terroristes. La dangerosité des patients psychiatriques a été largement documentée comme statistiquement moindre par rapport aux actes criminels de la population générale. De quel droit on nous fiche ? Les financements de la recherche et, des dispositifs numériques en santé. Financer des start-up et des gadgets plutôt que le soin est révélateur des temps qui courent. Réduire la recherche et la santé mentale au modèle biomédical est particulièrement gênant quand on sait qu'on pourrait financer des recherches en sciences humaines et sociales pour traiter ces troubles le plus souvent liés à des traumatismes psychologiques. Pourquoi ne pas confier des programmes de recherche aux propres personnes concernées ou survivantes de la psychiatrie ? Le remboursement des psychothérapies. Si on s'attaque aux causes des troubles mentaux, on découvre des histoires de vie toutes uniques, et non pas des cohortes de malades, des personnes ayant traversé des bouleversements traumatiques, d'où la nécessité des pratiques de psychothérapie accessibles financièrement. Nous demandons donc le remboursement des séances de psychothérapie, mais nous proposons également de participer à la formation des professionnels de santé et des thérapeutes à la spécificité de nos parcours de vie et de nos problématiques individuelles et collectives. Nous souhaitons partager notre expérience vécue pour améliorer les soins. La paire aidance. Nombreuses sont les personnes qui choisissent de consacrer leur vie à la psychiatrie en se basant sur leur vécu d'expérience, ce qu'on nomme la pérédance professionnelle, qui désigne des professionnels au sein des équipes de soins conventionnels. Faire rentrer des patients rétablis à l'hôpital est une source d'espoir pour les personnes en proie avec l'hospitalisation. Cependant, cette profession n'est pas protégée et ces travailleurs et travailleuses, comme les autres, ne sont pas considérés à leur juste valeur. Alors, il y a un petit rappel historique qui, moi, selon moi, n'a rien à voir avec la pérédance, mais bon, comme il est là, je vais vous le lire quand même. Petit rappel historique, donc, Jean-Baptiste Pussin a commis l'acte fondateur de la psychiatrie d'enlever les chaînes des folles et fous de l'hôpital de la Salpêtrière en 1795 comme un symbole de la naissance de la pérédance incarnée par ce patient en rémission nommé gouverneur des fous sous les ordres du docteur Pinel. Voilà, donc c'est un patient qui est devenu soignant ou quelque chose comme ça. Qui est devenu, en tout cas, intermédiaire entre le docteur Pinel et ses patients. Bon, c'est vraiment un contexte très différent quand même du contexte actuel. Pas de justice, pas de paix. Pour toutes les personnes que la psychiatrie a bousillées et leurs proches, nous leur adressons notre soutien. Le voile doit être levé sur les pratiques psychiatriques. Les psychiatres et les équipes doivent rendre des comptes sur leurs pratiques. La dissolution de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Alors ça, c'est ouais, le CCDH. Donc le CCDH qui est... On va le voir tout de suite. Hein. Nous appelons le gouvernement Barnier. Alors, c'est plus le gouvernement Barnier aujourd'hui. C'est le gouvernement Bérou. À dissoudre dès à présent cette dangereuse organisation qu'est la CCDH, qui, sous couvert de la défense contre les abus psychiatriques, utilise son emprise pour enrôler des personnes psychiatrisées au sein de l'Église de Scientologie. C'est une dérive sectaire qui menace directement l'accès aux soins et la santé des personnes concernées. Nous appelons les personnes se sentant en accord avec ce texte, alors donc l'ensemble du texte que je viens de vous lire, à nous rejoindre sur WhatsApp et à organiser à une date concertée partout en France des manifestations aussi connues sous le terme de Mad Pride ou Fierté folle. Car oui, on peut être fier d'être au monde et de faire entendre un cri de dignité face au traitement dégradant de la part des médias aussi, que nous subissons au même titre que les oppressions systémiques. La libération psy doit avancer main dans la main avec la libération de toutes et tous. Pas de santé mentale sans lutte antifasciste, antiraciste, antivalidiste, antisexiste. Pas de santé mentale sans lutte contre les LGBTQI-phobies. Chaque organisation pourra se servir de ce texte, se l'approprier ou s'en démarquer, puisse-t-il aider à la cause des personnes en soins et à la communauté des citoyens que nous sommes. Voilà. Donc ça, c'est ce, bah oui, une espèce de manifeste, on peut dire ça comme ça, pour donc 2025. Donc on voit qu'il se passe quand même quelque chose. Côté psychiatrisé, des personnes psychiatrisées, une organisation qui se fait, et bien nous, évidemment, ici nous encourageons cette initiative. Alors je vais vous proposer maintenant une plage musicale. Voilà.
Choisis ses cours, ses enfants, des jouets ventrés jusqu'au dents.
Radio Libertaire, l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme tous les mercredis de 9h30 à 10h30. Et c'est sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Appel à signature, sixième occupation, on ne retournera pas sous les ponts. Depuis le 10 décembre 2024, le collectif des jeunes du parc de Belleville occupe la Gaîté Lyrique, un lieu culturel de la ville de Paris. Nous sommes près de 250 jeunes à l'intérieur, c'est-à-dire la quasi-totalité des mineurs non accompagnés qui dormaient dehors il y a encore quelques jours. Avec le soutien du lieu, nous exigeons de l'État des solutions d'hébergement dignes et pérennes. En l'absence de réponse du gouvernement, c'est à la mairie qu'il incombe la responsabilité de mettre à l'abri celles et ceux qui dorment dans ces rues. En attendant que les institutions réagissent, ici on s'auto-organise et on lutte. Grâce à la mobilisation et la solidarité, nous cohabitons avec le public et nous assurons le petit déjeuner et un dîner chaud pour chacun, chacune d'entre nous. Chaque jour, des centaines de personnes se rassemblent devant la Gaîté Lyrique et participent à nos assemblées générales. Nous dénonçons les fausses informations qui circulent à propos de nous et nous ne nous laisserons pas faire. Si nous occupons ce bâtiment, c'est parce qu'une fois sur le territoire français, nous devons passer une évaluation de minorité afin d'être pris et prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Cette évaluation raciste et expéditive réfute très souvent notre minorité. Notre seule option est alors de contester cette décision auprès d'un ou d'une juge pour enfants. Un recours qui prend entre 7 et 12 mois, durant lesquels nous n'avons aucun statut reconnu par les institutions qui en profitent pour piétiner nos droits. Notre collectif, avec la conviction que la lutte pour le respect de nos droits doit être menée par nous-mêmes, n'a cessé depuis un an d'interpeller les autorités en occupant des bâtiments et en interrompant des événements publics. Nous savons que notre situation n'est pas due à un manque de moyens, mais est le résultat de choix politiques répétés visant à précariser et criminaliser les personnes migrantes. Nous le répétons, nous ne quitterons pas la Gaîté Lyrique sans proposition d'hébergement digne. Et voici la liste des trois choses qui sont exigées. Un hébergement immédiat pour les 250 occupants de la Gaîté Lyrique. Que Mme Hidalgo et Mme Filoche fassent preuve de courage en se tenant à nos côtés pour réclamer à l'État les moyens nécessaires à notre prise en charge. Que toutes les forces de gauche participent à la lutte contre le racisme pour un système d'accueil digne et d'égalité de droits de tous et toutes. Rejoignez-nous chaque jour à 18h devant la Gaîté Lyrique. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et contribuez à notre cagnotte. Ce tract est donc signé par le collectif des jeunes du parc de Belleville. Et pour finir cette émission patchwork de l'entonnoir, je vous propose la lecture d'un article d'une revue qui n'existe plus, Micrurus, contre la médecine et son monde, volume 2. Alors, il s'agit effectivement de médecine libertaire. Nous fûmes le collectif médecine libertaire. Ce collectif fut composé d'individus qui souhaitèrent penser et agir autour de la santé, de la médecine et du corps dans une perspective anarchiste. Pour nous, le système médical est l'un des relais des dominations de classe, de, entre guillemets, race et de genre. La question de la santé pose la question du rapport à la norme et à la normalité que nous voulons subvertir. Dans ce cadre, nous tentâmes de définir des bases théoriques communes pour à la fois penser et lutter contre les travers sinistres du système médical actuel. Ceci passa aussi par la mise en œuvre de pratiques collectives, libératrices et autonomes afin de se réapproprier nos corps et nos vies. Eh oui, et donc c'est fini. Ça va peut-être réémerger ailleurs autrement, quelque part ailleurs autrement. Mais en tout cas, voilà, l'expérience médecine libertaire de Caen qui a diffusé un peu à l'échelle nationale, cette expérience-là est close pour le moment. Alors, le titre de l'article, c'est « Silence, ici on lutte, la délégation du soin dans les milieux anards ». La société dans laquelle on vit, basée sur des rapports d'exploitation et de domination, est source de multiples souffrances. Certaines d'entre elles sont liées à un engagement politique anarchiste. Pourtant, le soin entendu dans son acception large, c'est-à-dire incluant l'attention mutuelle et la reconnaissance de l'autre, semble tenir une place très secondaire, voire inexistante, dans les pensées et pratiques anarchistes contemporaines. De manière générale, la question du soin y est laissée de côté comme celles et ceux en souffrance. Et ce, en dépit de la possible tenue d'un discours critique de la psychiatrie. Critique émergeant peut-être du lien entre psychiatrie et enfermement, renvoyant alors celle-ci du côté des luttes anticarcérales, objet de luttes bien plus investies que celui de la psychiatrie. Tout cela est généralement renvoyé hors des temps politiques, c'est-à-dire dans le domaine dit « privé », si tant est que l'on puisse définir un temps qui serait politique et un temps qui ne le serait pas, de même que l'on pourrait laisser les relations de pouvoir à la porte des foyers. En pratique, on délègue ces questions et leurs implications aux meufs, aux proches et aux institutions médico-sociales. Le terme « meuf » ou « femme » renvoyant majoritairement dans ce texte aux individus désignés comme appartenant au genre « femme ». Cette mise à l'écart du soin vient pour partie d'une définition restreinte et biaisée de celui-ci, mise à distance théorique et pratique entretenue par la médecine moderne occidentale et reproduite dans le milieu anarchiste. Il semble alors nécessaire de se défaire de cette idée préconçue du soin, notamment en montrant la multiplicité des manières de l'envisager, entre autres à travers l'attention à soi-même, aux autres et à ce qui nous entoure. J'aimerais que ce texte puisse être lu comme une invitation à penser, inventer, redécouvrir collectivement des formes de soins plus étendues et plus en accord avec des relations librement consenties, c'est-à-dire s'inscrivant dans une co-construction et non une dépossession. Bref, à redonner un sens et une pratique anarchiste aux soins. Construction sociale des maladies et des remèdes qui l'entretiennent. Notre société est en bonne partie sous-tendue par des rapports de domination et d'exploitation. Envisager le soin ne peut se faire sans prendre en compte ce contexte. En effet, se sentir épanoui et libre quand on doit continuer à vivre dans un environnement mortifère et oppressant semble difficilement envisageable. S'il sera principalement question dans ce texte de relations entre militants, il n'est pas à négliger que c'est bien contre les structures de domination, dont certaines bien matérielles, qu'il s'agit de lutter. Car même à penser que dans une société libérée, la maladie n'existerait plus, il reste encore du taf d'ici là. Tout cela ne peut donc se faire sans lutte contre les institutions et idéologies à l'origine où reproduisent des pensées et pratiques de domination et de dépossession, notamment celles à l'œuvre dans la médecine occidentale moderne. Il va s'agir de déconstruire ce que nous avons intériorisé de cette dernière, sa nécessité, sa pratique, son langage, ce qui amène à interroger ce qu'on nomme maladie, ce qui relèverait du pathologique, du gênant, qu'on préfère ignorer. Le soin dépasse les définitions médicales, et s'il y a désaccord avec la médecine moderne sur ce qu'exprime une souffrance, sur ce qui, au fond, la provoque, alors les manières d'agir ont de bonnes chances de différer, parfois radicalement. Mais la critique de l'institution médicale ne sera ici que périphérique. Si la nécessité de la destruction de son pouvoir de nuisance ne fait pas ici de doute, il sera surtout question de ce que l'on construit. Construction qui, en retour, peut participer à son sabordage. L'agir politique comme sens et la souffrance comme négation du collectif. On se soutient en cas de procès, mais bien peu en cas de bad, ou alors en dehors des temps d'organisation et d'action politique. Pourtant, ces situations se présentent parfois, voire souvent, du fait de nos choix de vie et pratiques politiques. Parmi d'autres, perception parfois plus aiguë des rapports de domination, affrontement avec les keufs. Il semble alors légitime de poser en amont la question de la gestion collective de la santé comme on le fait déjà pour d'autres trucs. Organisation d'action, lutte sociale, comité de soutien, etc. Il ne s'agit pas de dire que tous les groupes politiques entretiennent une froideur affective, une négation complète de nos fragilités au nom d'un dévouement total à une cause extérieure, rejetant de nous ce qui ne la sert pas. Pourtant, l'idée de collectif semble souvent se borner à l'invitation de cette seule part, simulée ou non, de soi, le reste relevant de l'en dehors des temps d'action et d'assemblée. Peut ainsi s'y exercer à divers degrés des impératifs d'efficacité, d'urgence, une certaine exigence virile et la construction d'un rapport de force mettant de côté ceux qui ne semblent pas directement y œuvrer. La part de soi que l'on consacre à l'activité politique peut être profonde quand s'y déploie une recherche de sens et de raison de vivre, l'impression de faire quelque chose d'utile et de participer à l'élaboration d'une vie plus juste. Cela amène parfois à se fondre dans l'activisme. Qu'en est-il alors lorsque l'usure ou la lassitude nous ronge, qu'on perd le rythme, voire le sens des luttes que l'on mène ? Ne plus être en capacité de militer peut, par conséquent, laisser place à un vide aussi bien en soi qu'autour de soi. On risque alors de combler ce vide parce que notre société a rendu plus accessible, parce que préformaté à l'échelle des normes dominantes, comme la consommation d'un bien-être superficiel en kit ou de lutte réformiste. S'il semble masquer ce que l'activité politique fait directement endurer, il en est de même pour l'expression des souffrances dont les causes semblent moins dépendre de cet engagement. Avoir peur de saouler si on en cause, se dire que ce n'est pas le moment, hésiter à se montrer sous un jour plus vulnérable, cela et d'autres raisons peuvent pousser à garder ces difficultés et douleurs pour soi. Sauf que les liens se défont de fait. On s'éloigne ou on éloigne de celles et ceux qui ne vont pas bien. On éloigne ou on s'éloigne d'eux, celles et ceux qui ne vont pas bien, ou alors on botte en touche quand il faut en causer. Agir à plusieurs est évidemment d'agir collectivement. Et quand la souffrance devient trop visible, les individus se retrouvent à couper les ponts par obligation supposée de n'envisager leur souffrance qu'en négation du collectif. Veillez à ceux qui lient. Comment alors faire en sorte que le soin ne soit pas seulement, comme il semble l'être actuellement, un supplément d'âme et ou un parent pauvre du politique, mais une de ses composantes essentielles afin que se mêlent commun et singularité dans un mouvement d'autonomie politique ? Comment faire pour que la question de la souffrance et de celles qui la subissent ne soit pas synonyme d'une mise à l'écart, ou voire d'une auto-mise à l'écart ? Comme il en sera discuté plus loin, cela peut en passer par la mise en place, si nécessaire, d'outils, de cadres pour que soient plus accueillants et inclusifs les espaces politiques. Mais tout outil destiné initialement à contrecarrer des rapports de pouvoir ne peut être en soi suffisant et peut ainsi être détourné si rien n'empêche qu'il soit un énième tremplin à des comportements dominants. Alors, il y a une petite note. Pour ne prendre que cet exemple, les tours de parole peuvent parfois ne donner lieu qu'à une succession d'interventions à rallonge entre experts de la militance, dont la position sociale dominante leur permet une aisance à l'oral. Si dans le même temps d'autres participants et participantes à ces temps d'assemblée font l'effort de se mettre en retrait, du moins de ne pas trop accaparer la parole, alors ne s'entend plus que la voix des dominants. La brochure « Paranormal, tabou et autres textes sur les violences intracommunautaires » montre bien comment la mise en place de certains outils pour rendre des espaces plus à l'abri des comportements oppressifs, plus safe, peuvent aussi permettre de nier les conflits à l'avantage des dominants. Fin de la note. Alors, tout outil destiné à contrecarrer des rapports de pouvoir ne peut être suffisant. Il est donc nécessaire de lier cela à un travail de fond et une vigilance action sur les situations d'oppression. Créer du collectif et du commun, dans une perspective anarchiste, ne peut se faire sans un souci de l'autre, de sa singularité, ne pas invalider de suite ce qu'il ou elle exprime, le prendre en compte, c'est ainsi reconnaître une valeur de légitimité à l'autre, lui permettant ainsi de prendre de l'assurance aussi bien dans qu'en dehors des collectifs politiques. Tout cela peut difficilement se faire sans la construction de rapports de confiance permettant que ne soient pas tus certains désaccords par crainte de se brouiller avec des membres d'un collectif auquel on participe ou de se voir exclu de certains espaces. Il n'est pas pour autant question d'accueillir cordialement tout et tout le monde. La bienveillance n'est pas envisagée ici comme absolue, d'autant moins quand celle-ci conduit à faire taire les divergences et les conflits. S'il est important de prendre soin des individus, il en est de même concernant les liens, les collectifs et les médiations qu'il faut fabriquer. Ces médiations peuvent se façonner par la participation à des ateliers entre guillemets pratiques, permettant notamment de sortir du cadre réu autour d'une table, que ce soit sous la forme bouffe commune, de bricolage, de jardinage ou autre. Ces pratiques partagées peuvent permettre des rapports plus souples, moins étouffants, plus libérés. Pouvoir faire autre chose que parler ou se taire et écouter, ou gribouiller avec application un bout de table ou de feuille, peut contribuer à se sentir moins isolé et pouvoir plus facilement participer. Tout cela peut avoir comme effet de se sentir plus en confiance et de trouver plus facilement une place, de libérer la parole et d'amorcer plus facilement les premiers contacts. C'est aussi l'occasion de prendre du plaisir dans la pratique politique radicale, de l'envisager autrement que comme labeur, de créer des moments autres que le face-à-face. S'il a été dit que certaines souffrances semblent très fortement liées à un engagement politique, ce dernier peut être aussi source de vie, de joie, d'espace permettant de trouver une cohérence entre ses pensées et ses pratiques, et ainsi de s'alléger de certaines contradictions qui peuvent s'y jouer. Ce sont aussi des moments où peuvent s'échafauder des solidarités concrètes, mutuelles, groupes d'autodéfense et d'auto-support, des formes de soutien à la subversion de l'existant. Au final, porter de l'attention aux liens qui tissent le collectif, c'est réunir les conditions d'une pleine participation de chacun et de chacune et de véritablement tendre vers le consensus. Et cela, en cela, le soin s'inscrit dans tout un travail collectif de création de conditions d'une vie plus libre. Rôle, séparation des tâches et mise à distance. Le non-questionnement collectif du soin, sa mise à distance, se reflète par le fait que celui-ci est le plus souvent assigné à des catégories d'individus ou à des institutions et l'on s'en remet ainsi par défaut, voire par confort, aux formes de soins conventionnées par le pouvoir en place. On retrouve ici les séparations des rôles et des espaces, celles et ceux qui ne vont pas bien, c'est aux meufs, à l'entourage, à l'hosto de s'en occuper, cela n'a rien à faire dans les espaces d'organisation politique. Cette vigilance aux relations qui s'opèrent dans le groupe est le plus souvent, voire systématiquement, dévolue aux meufs sans que, à de rares expressions, exceptions près, tout cela ne soit clairement posé et questionné. Cela fait écho à la manière dont, en France notamment, la médecine moderne s'est construite contre les femmes. D'abord, quand l'Église était plus influente, en les dénonçant comme pratiquant une médecine empirique, petite note, c'est-à-dire des pratiques de soins se construisant en premier sur la base de l'expérience et non sur les seules théories ou les dogmes, à travers un savoir, savoir-faire, implicite, intuitif, acquis par l'expérience, cette vision du soin se focalise davantage sur la personne qui souffre que sur la maladie dont elle souffre. Fin de la note. Puis en les excluant des facultés de médecine, en les cantonnant aux soins infirmiers. Soigner, dans son sens le plus plein, consiste à apporter à la fois des remèdes et des soins, à être docteur et infirmière, les guérisseuses empiriques des temps anciens avaient combiné les deux fonctions et étaient estimées pour les deux. Mais avec le développement de la médecine scientifique et avec la profession médicale moderne, les deux fonctions furent irrémédiablement séparées. Les métiers de docteur et d'infirmière apparurent comme des fonctions complémentaires et la société qui avait défini le métier d'infirmière comme féminin pouvait facilement considérer que celui de docteur était intrinsèquement masculin. Avec sa sensibilité et sa spiritualité innée, elle ne pouvait trouver sa place dans le monde rude et linéaire de la science. Avec son esprit de décision et sa curiosité, il ne pouvait patienter de longues heures au chevet des malades. Heinrich Barbara, Heinrich Deirdre, sorcière, sage-femme et infirmière, une histoire des femmes soignantes, 1973-2010-2014. Si cette distinction se ressent toujours dans la répartition des postes au sein des services, alors il y a le mot service avec un R entre parenthèses au milieu, pas toujours hospitalier. Cela prend aussi bien corps dans toutes les strates de notre société patriarcale. Aux hommes, le pouvoir, le savoir et la technique. Aux femmes, la sensibilité, les positions subalternes et l'adaptation aux besoins des autres. Co-construction et réappropriation. Bien souvent, être soigné, c'est confier une part de soi à quelqu'un ou quelqu'une d'autre. Mais s'identifier à l'autre dans ce cas, pour des similitudes de classe, de genre, de culture, etc., peut permettre de prendre en soi l'image de sa force et en nourrir sa propre confiance. Dans le cas opposé, comme l'écrit Starhawk, si on m'oblige à me tourner vers des hommes lorsque je cherche du soin et de l'aide dans les expériences les plus féminines, j'entends très clairement que je suis incompétente, incapable de prendre soin de moi. Starhawk, Révèle obscur, Femmes, Magie et Politique, édition Cambourakis, 2015. Viser l'autonomie politique, c'est se définir soi-même et sa vie dans les termes que l'on choisit à travers notamment des relations et associations librement consenties. Il n'est pas ici question d'individus autosuffisants. Détruire les assignations à des rôles, fonctions et expertises et partant le pouvoir sur d'autres que cela peut engendrer ne signifie pas que chacun, chacune doit être doué en tout, savoir tout, faire seul. L'idée ici est celle d'une co-construction, de faire ensemble et pas seulement laisser faire ceux ou celles qui sauraient, qui feraient autorité. Je me soigne avec et pas seulement par quelqu'un. C'est un savoir-faire qui se partage, qui vise une autonomie collective et individuelle. Faire avec et non à la place de quelqu'un peut permettre de révéler à chacun et chacune ses propres ressources et capacités. Soigner sous contrainte n'a pas de sens et le consentement ne peut être plein qu'à la condition que ce qu'exprime l'individu soit pris en compte. La qualité de l'écoute est aussi importante que celle de la parole et il semble alors nécessaire de se mettre au niveau des individus, de ne pas invalider de suite ce qu'il ou elle exprime, au contraire de la médecine moderne occidentale qui ne prend en compte que les signes corporels et ignore la parole des patients tout en enrobant la sienne d'une raisonnable expertise sauce latine. L'idée est de sortir d'autant que possible d'une relation thérapeutique et asymétrique, d'être compagnon plus encore que soutien. Mais prendre en compte la singularité des individus, faire preuve d'une certaine empathie, même dans leur délire, ne veut pas dire s'oublier soi-même. Le consentement et la compréhension se doivent d'être autant que possible réciproques. S'agissant des délires, envisage-t-on la situation comme simple non-concordance de perception du réel ? Si l'on ne parvient pas à créer un certain commun, une certaine réciprocité, mais que s'entretient tout de même une relation, ne reste-t-on pas malgré soi dans une posture thérapeutique vis-à-vis de l'autre ? Que notre relation avec l'autre se limite ou non à un rapport de soins, ne pas s'oublier soi-même quand on soutient quelqu'un ou quelqu'une, c'est se permettre de prendre en compte que nos disponibilités ne peuvent toujours s'offrir sans aucune réserve. C'est ainsi délimiter explicitement les espaces et les temps au sein desquels on est à même de soutenir quelqu'un ou quelqu'une, d'être dépositaire d'un certain mal-être. Allez. On déborde un petit peu sur le temps avec le dernier sous-chapitre de cet article, Silence ici on lutte, la délégation du soin dans les milieux anards. Alors de Sam Dacrus, voilà, c'est Sam Dacrus, l'auteur de cet article. Dans Microurus, donc journal contre la médecine et son monde, donc c'est peut-être en... à quelle date c'était paru, je cherche un peu, janvier 2018. Autonomie. Si l'on s'oppose aux institutions médicales oppressives et si l'on vise autant que possible à s'en émanciper, il semble pour le moment difficile de s'en passer totalement. Que les maux que l'on souhaite y faire guérir soient d'origine sociétale ne change rien à l'affaire. On doit encore dealer avec l'existant, en amont comme en aval, des souffrances qu'il produit. Il ne s'agit pas pour autant de collaborer ou d'adopter une posture passive face aux rouages médicaux et l'internement qui peut aller avec, mais de multiplier les prises que l'on a sur eux et les manières d'y glisser des grains de subversion et de résistance. Si l'action directe, entre guillemets, collective n'est pas toujours possible, notamment pour ne pas être trop intrusif ou intrusive vis-à-vis de l'individu, des formes de soutien et d'accompagnement sont possibles durant les consultations et autres rendez-vous médicaux permettant de montrer que l'individu n'est pas seul, de créer un rapport de force avec l'institution, ceci étant d'autant plus nécessaire en cas d'internement en hôpital psy. Il existe une multitude de manières de faire et de prendre soin. On est souvent déjà à même de proposer plein de choses, de les lister, de les visibiliser. Cela peut notamment se faire à travers des ateliers divers permettant de plus simplement s'exprimer ou juste de se faire du bien. La parole n'est pas tout. Il peut s'agir aussi de confection de ces remèdes, d'automédication, d'autodiagnostic.